Voilà, je crois que l'on peut commencer. Bonjour. Merci d'être venu participer à cette discussion. Le thème de notre discussion est extrêmement ambitieux, de la démocratie en Amérique, mais je pense que notre objectif aujourd'hui n'est pas vraiment de réécrire Tocqueville ou ni même de le corriger ou de le compléter, mais de réfléchir un peu sur cette démocratie américaine qui est souvent présenté comme un modèle, mais qui est aussi un modèle décrié. Parfois, une démocratie critiquée, mais qui, à plusieurs reprises et encore à une date récente, a fait la preuve de sa vitalité, de sa capacité aussi à se critiquer elle-même, à se remettre en question. Mais évidemment, il y a beaucoup de problèmes qui se posent autour de la démocratie américaine. On pourrait dire aussi de toutes les démocraties, mais peut-être que, en ce qui concerne la démocratie américaine, il y a une espèce de condensé des questions qui se posent généralement au régime démocratique. On se souvient des élections présidentielles de 2000 et du comptage et recomptage qu'il a fallu faire avant d'arriver à un résultat qui était peut-être contestable, mais qui a été quand même le résultat qui a été entériné par la Cour suprême. Ces élections de 2000 étaient peut-être aussi une espèce d'exemple ou de caricature des problèmes de la démocratie américaine, où le système est tel qu'il peut advenir que la majorité populaire soit différente de la majorité présidentielle. Bon, ce n'est pas le seul pays où c'est le cas. Aussi la Grande-Bretagne, qui a un système totalement différent qu'un système parlementaire, il peut arriver, étant donné le système électoral, que le parti qui arrive au pouvoir ait une majorité de députés sans avoir une majorité populaire. Au cours des deux mandats de George Bush, on a vu aussi comment des problèmes de tension entre le système démocratique, les règles de l'état de droit, de l'état démocratique et la question des libertés individuelles, de la mise en cause, de la mise en question parfois des libertés individuelles au nom de la lutte contre le terrorisme pouvait se poser. Une autre question aussi qui s'est soulevée par la démocratie américaine, mais qui nous concerne parfois directement, parce que c'est un système que l'on voudrait soit transposé dans les démocraties européennes. Je veux parler du système des primaires, qui apparaît extrêmement, dans un certain sens, extrêmement démocratique, puisqu'il permet de choisir les candidats dans les divers partis, dans les deux principaux partis en tout cas, les candidats qui vont être en lice pour l'élection présidentielle, mais en même temps qu'il y a beaucoup de déficiences aussi, de défauts. On l'a vu au cours des dernières élections, par exemple le fait, pour citer un seul exemple, le fait que certains électeurs traditionnellement inscrits comme républicains se soient inscrits au dernier moment comme démocrates pour pouvoir voter dans des primaires démocrates et influer sur, dans certains États, sur le résultat de la course entre Hillary Clinton et Barack Obama. On pourrait aussi parler, on y viendra sans doute aussi, du rôle de la presse dans la démocratie américaine, un rôle qui est à la fois un rôle extrêmement critique, mais en même temps parfois aussi un rôle, je dirais, suiviste. Et la guerre en Irak a donné un bon exemple de cette situation, où dans un premier temps, on a vu la presse américaine, dans sa grande majorité, pour pas dire dans sa quasi-totalité, y compris les journaux libéraux de la côte Est, acheter, si vous permettez l'expression, acheter l'argumentation présentée officiellement pour justifier l'intervention en Irak, c'est-à-dire la présence d'armes de destruction massive dans l'Irak de Saddam Hussein. Mais en même temps, donc, une position extrêmement passive vis-à-vis de la propagande gouvernementale, mais en même temps, au bout de quelques mois, il est vrai, un sursaut qui a permis à la presse américaine, qui a fait que la presse américaine a enquêté de manière extrêmement critique et extrêmement virulente sur la politique menée par le Pentagone et par l'administration Bush. Enfin, on pourrait parler aussi du rôle de l'argent qui a été particulièrement... Enfin, la dernière campagne a été particulièrement coûteuse, si je puis dire. En tout cas, les candidats ont dépensé, le candidat qui a gagné a dépensé une somme dans la campagne électorale qui dépasse tout ce qu'on avait connu auparavant. On pourrait aussi parler du rôle d'Internet, qui, peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas de manière aussi massive, a joué, a eu une influence très, très, très importante dans la dernière campagne électorale. Enfin, si on a le temps, mais je crains que on n'arrive pas à traiter tous ces sujets et tous ceux que j'ai oubliés en cours de route. Enfin, si on a le temps, on pourrait aussi parler de la démocratie américaine et de son rôle vis-à-vis de l'extérieur, en dehors des États-Unis, et cette espèce de dilemme ou de tension récurrent dans l'histoire américaine entre l'objectif de développer, de maintenir, de protéger cette démocratie américaine à l'intérieur des États-Unis et la volonté de la projeter vers l'extérieur. Bon, pour faire très vite et pour vraiment simplifier le dilemme, la tension entre les isolationnistes d'une part et les internationalistes d'autre part. Bon, j'arrête là cette petite présentation. Nous avons trois participants à cette table ronde. Sylvie Laurent, qui est maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris et qui vient de publier un livre qui s'appelle « Homérique, Amérique ». Et vous pourrez retrouver Sylvie Laurent à partir de 16h au Café des auteurs. Arthur Goldhammer, qui anime un blog aux États-Unis sur la politique française, « French Politics ». Et qui est le traducteur en anglais de Tocqueville. Enfin, Romain Huret, qui est maître de conférence à l'Université Lyon 2, c'est ça, et à l'Institut d'études politiques de Paris, qui lui aussi a écrit, est l'auteur d'un livre récent sur la fin de la pauvreté, les experts sociaux en guerre contre la pauvreté aux États-Unis. Et vous pourrez aussi retrouver Romain Huret au Café des auteurs à partir de 16h cet après-midi. Donc, je vais d'abord passer la parole à Arthur Goldhammer pour un petit quart d'heure.
Oui. Merci d'abord à Pierre-Rose Avalon pour l'invitation et merci à tout le monde d'être là. Je vous demande pardon pour commencer parce que je vais lire mon texte. Je ne suis pas très doué pour l'improvisation, soit en anglais, soit en français. J'espère que je ne vous ennuie pas trop. En tant que traducteur, j'ai l'habitude d'avoir toujours devant moi un texte, et même si ce texte est de ma propre confection est donc de beaucoup inférieur au texte que je traduis normalement, c'est ce que je vais faire. Alors, la question, le thème de ce colloque, c'est réinventer la démocratie. Peut-on dire que Barack Obama a réinventé la démocratie en Amérique? Certains partis politiques européens semblent le penser. Ils envoient des délégations en Amérique pour étudier son utilisation d'Internet ou la rhétorique de ses discours. On s'efforce de démonter sa technique comme s'il s'agissait d'un mécanisme plutôt qu'un art. Sans doute, tout cela n'est-il pas sans importance, mais il faut se rendre à l'évidence. Même avec toute la nouvelle technologie et tout le professionnalisme de la campagne, la victoire n'aurait pas été au rendez-vous sans trois facteurs capitaux qui ne se reproduiront point. George Bush battait tous les records de l'impopularité. John McCain était un candidat sans éclat qui a fait beaucoup d'erreurs et qui n'avait pas le soutien de tout son camp. et une crise économique sans précédent a atteint son paroxysme pendant la phase critique de la campagne. Obama était le bénéficiaire de toutes ces circonstances qu'il n'a pas créées. Je ne dis pas pour autant que le candidat n'était pour rien dans sa victoire, tant s'en faut. Mais de quel genre de victoire s'agit-il? Pour certains, comme Uri Teixeira et John Judas, l'élection d'Obama n'est rien de moins que l'aboutissement d'une transformation démographique profonde qui laisse présager une domination durable du Parti démocrate. Pour ma part, je suis moins sûr que la conquête du pouvoir ait ce caractère structurel. Si, pour simplifier, c'est la peur du terroriste qui a fait réélire Bush, c'est la crainte de nouvelle dépression qui a fait élire Obama. Malgré cette volatilité des passions des électeurs, les grandes lignes de notre affrontement politique restent, à mon sens, plus ou moins inchangées. Pour provoquer au maximum, j'irai jusqu'à dire que le Parti démocrate reste le parti des boursiers, des banquiers et des éboueurs, alors que le Parti républicain est toujours le parti des héritiers, des héros et des harangueurs, ces petits blancs en colère, style Joe le plombier. Et le match reste très serré. En un sens, c'est un match entre deux élites, l'intelligence et la fortune, se dispute l'approbation du peuple qui, au fond, n'aime ni l'une ni l'autre. Bien sûr, si je sépare ces deux principes au fin de l'analyse, je conviens que dans la nature, ils existent dans toutes les combinaisons qu'on peut imaginer. On y reviendra plus loin. Certes, on peut affirmer que la victoire d'Obama marque un pas décisif pour la démocratie, une expansion du corps politique par l'inclusion d'une minorité auparavant méprisée et trop longtemps exclue. En témoignent les défilés de voitures chargées de familles afro-américaines, toutes endimanchées, que mon fils a aperçues sur la route de Memphis à Washington la veille de l'investiture. Mais, d'un autre côté, on peut voir cette même victoire sous un tout autre jour. Car le nouveau président, tout comme Bill Clinton, son prédécesseur du côté démocrate, est un pur produit du système de promotion qu'on a peu à peu mis en place depuis la Deuxième Guerre mondiale. Si finalement la race du candidat a fait moins problème qu'on a pu craindre, c'est qu'on le voit moins comme black que comme boursier. Il est donc le bénéficiaire d'un système de promotion qui est une puissante machine à créer au milieu de la démocratie. J'allais dire quelque chose comme une caste, mais ce serait trop fort. Disons plutôt une couche privilégiée de diplômés d'une poignée d'universités d'élite, the best and the brightest, comme on a pu les baptiser, les meilleurs et les plus malins. La légitimité d'un tel système est une chose très fragile. Elle dépend surtout des perceptions et des expériences de milliers d'individus, et des perdants autant, sinon plus, que des gagnants. Le système ne peut bien fonctionner que si une large majorité de la population croit qu'il est équitable. L'un de nos plus grands philosophes politiques, John Rawls, a fondé toute sa théorie de la justice sur cette question précise de l'équité dans la distribution des chances et des récompenses. Mais pour Rawls, l'équité est un concept plutôt abstrait. Je préfère une version plus terre-à-terre, plus proche en effet de l'une des idées fortes de Tocqueville, à savoir que les mœurs sont plus importantes que les lois. Et dans nos mœurs, je constate que depuis assez longtemps déjà, ce système de sélection, qu'au début on a accepté tant bien que mal, suscite un ressentiment de plus en plus fort. C'est que les premiers de la classe d'aujourd'hui sont de plus en plus souvent les enfants des boursiers d'hier. Le système qui, par le passé, représentait une ouverture s'est refermé et ceux qui en étaient les bénéficiaires s'en servent pour pousser leurs enfants vers les sommets du pouvoir. On a créé une couche intellectuelle destinée à exercer une influence disproportionnée pour une large part à l'abri des vicissitudes de l'économie et qui se reproduit à l'infini. Cela provoque le ressentiment. D'où vient ce ressentiment? Ce serait trop facile de répondre qu'il s'inscrit au cœur de nos traditions démocratiques, même s'il est vrai que l'un de nos historiens les plus célèbres, Richard Hofstadter, s'est fendu d'un très beau livre qui a pour titre « L'anti-intellectualisme dans la vie américaine ». Mais il n'est pas moins vrai que cette même Amérique a deux fois élu à la présidence Woodrow Wilson, ancien professeur de sciences politiques, que Bill Clinton était un Rhodes Scholar et que lui, tout comme Barack Obama, exerçait un temps les fonctions d'un professeur de droit. Il n'en reste pas moins que le règne de l'intelligence pose problème aux États-Unis, à la différence de la France, où les traditions de l'État administratif le légitiment en quelque sorte. Même dans l'Hexagone, toutefois, nombreux sont ceux qui dénoncent les prétentions des énarques, alors que l'actuel président de la République affiche sa répugnance pour la princesse de Clèves comme une preuve de sa solidarité avec le pays réel. En Amérique, la suspicion à l'encontre d'une légitimation politique par le diplôme est autrement plus répandue. Les signes d'appartenance à une élite intellectuelle déracinée mais puissante sont tournés en autant de marques d'inauthenticité et donc de trahison de l'intérêt général. On le voit très clairement dans certains aspects de nos guerres culturelles. Nombre de mes concitoyens stigmatisaient le prétendu élitisme du candidat de la gauche à cause de son goût de la salade roquette ou son peu de penchant pour le bowling, alors que son opposant, propriétaire de cette maison et mari d'une héritière richissime, était fort du soutien de Joe le plombier. Mon collègue Sylvie Laurent a bien vu ce paradoxe. On ne peut, sans dommage, badiner avec la stigmatisation par le niveau intellectuel, a-t-elle écrit. La discrimination par l'éducation s'oppose à l'identité et à l'éthique nationale des États-Unis. Comment comprendre les fluctuations de ce ressentiment anti-élitaire ? On pourrait sans doute évoquer plusieurs cycles de croissance et de décroissance, dont le dernier en date trace ses origines aux années 30 et à la New Deal de Franklin Roosevelt. FDR était tout sauf un homme du peuple, mais le peuple l'avait vénéré, même s'il s'était entouré d'un brain trust ou un cartel des cerveaux. Pourquoi ? Parce que les cerveaux de Roosevelt étaient, eux, des tribuns du peuple, souvent issus d'origines modestes et recrutés par une administration en pleine expansion. Cet élargissement des fonctions et des attributions gouvernementales ouvrait de nouvelles carrières aux enfants de ceux-mêmes que les programmes du régime visaient et qu'on accueillait pour la première fois comme citoyens à part entière. Immigrés, syndicalistes, assistés sociaux, populations dites ethniques des grandes agglomérations urbaines. On payait plus d'impôts, certes, mais au lieu de contester le régime, comme on le fait maintenant, on le reconnaissait comme le garant de ses nouveaux droits sociaux et de son nouveau rôle dans le fonctionnement même de l'administration. Après deux générations, cependant, vers 1980, l'équilibre de ce système se trouve perturbé. C'est qu'on a pu peindre l'administration comme l'apanage d'une élite exclusive qui se maintenait au pouvoir, en comblant de sa largesse une partie de la population de plus en plus éloignée de l'Amérique profonde. Ce ressentiment a abouti à la révolte des contribuables et par la suite à la révolution réganienne qui instaurerait une toute autre conception de l'équité, à savoir que chacun puisse garder la part du lion de ce qu'il gagne, comme si le verdict du marché était par définition le verdict de la justice. Or, 30 ans plus tard, cette équivalence vient d'être battue en brèche par la crise économique. Et on a tout de suite comparé Barack Obama à Franklin Roosevelt. Comme Roosevelt, il représente l'inclusion des exclus. Comme Roosevelt, il incarne l'espoir qu'un État de nouveau dynamique puisse remettre les pendules à l'heure. Et à l'instar de son illustre prédécesseur, il a nommé son propre cartel des cerveaux pour étayer sa nouvelle administration. Il a donc redoré le blason de cette élite intellectuelle d'État dont il est lui-même le premier des non-pareils. Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que le ressentiment n'a pas pour autant disparu. Une colère qu'on pourra stigmatiser comme populiste, si elle n'était dans une certaine mesure partagée par tout le monde, sourd un peu partout. Ici en France, par exemple, le trotskiste Olivier Besancenot monte en flèche dans certains sondages. Aux États-Unis, la chaîne de télévision Fox News, très marquée à droite, a essayé de mobiliser la rage populiste en une série de manifestations dites « tea parties », des parties de thé, en souvenir des contestations de l'époque coloniale qui ont précédé la Révolution américaine. Les têtes les plus chaudes, comme Glenn Beck, chroniqueur de cette même chaîne, contestent la légitimité même du régime. Cette rage dépasse les partis pour viser l'idée même d'une autonomie relative de l'action de l'État. L'ennui, pour qui n'aime pas les dérapages de ce genre, c'est que tout n'est pas faux dans cette représentation de l'État, comme dépendant des instances extérieures. Il n'y a pas que les têtes brûlées qui parlent de la saisie du régulateur par les régulés. Le très respectable Simon Johnson, ancien économiste en chef du FMI, voit un système bancaire qui dicte sa loi à l'État. La révocation de l'acte dit de Glass-Steagall, souvent cité comme l'une des racines de la crise actuelle, était le fait des deux parties, proposé d'abord par le très conservateur sénateur Phil Graham, mais signé ensuite par le président Bill Clinton, leader du centre-gauche. J'ai dit tout à l'heure que le Parti démocrate est une coalition de boursiers, de banquiers et d'éboueurs. Hélas, ce portrait n'est pas tout à fait caricatural. Les contributions des banquiers au coffre du parti et surtout les contributions des grands banquiers d'investissement proches du sénateur Schumer, le président de la commission de campagne sénatoriale du parti, sont publiquement connus. Et les intellos gardiens de la République, grands commis de l'État, ne sont pas au-dessus de tout soupçon à cet égard. Larry Summers, l'un des conseillers économiques du président, est le protégé de Robert Rubin, qui a intégré le conseil d'administration du Citigroup après avoir servi comme secrétaire du Trésor sous Clinton. Et Summers lui-même a gagné 6 millions de dollars en une année comme consultant à un hedge fund, alors même qu'il servait comme le président à Harvard. Les rapports de complicité entre Tim Geithner, le secrétaire du Trésor, et les dirigeants des plus grandes banques de Wall Street faisaient l'objet d'un article récent dans le New York Times. Et tout cela, s'il n'y a rien de forcément coupable, il y a quand même de quoi nourrir quelques suspicions et d'attiser encore des passions déjà éveillées. Là, il y a un danger évident pour la démocratie rénovée. La résolution des problèmes de l'économie exige les compétences des experts, mais leurs implications d'hier auprès du monde des affaires imposent un devoir renforcé de transparence et d'équité. Nous assistons à un troisième règne de l'intelligence après ceux de la New Deal et du président Kennedy. S'il s'avère inéquitable ou si la crise va de mal en pire, en dépit de tous les efforts des conseillers les plus avisés, le prix à payer sera lourd. Depuis des années, presque la moitié de chaque promotion de l'université de Harvard se dirige vers le monde des finances. Les récompenses étaient irrésistibles. Ça commence à changer comme il le faut. Sinon, l'intelligence d'aujourd'hui se trouvera dans la même situation que l'aristocratie que décrit Tocqueville, dans le dernier chapitre, non pas de la démocratie en Amérique, mais de l'ancien régime et la révolution. Tout en cessant de protéger ou de servir les autres classes de la société, a-t-il écrit, l'aristocratie avait néanmoins non seulement conservé, mais beaucoup accru les avantages dont jouissaient individuellement ses membres. Et donc, on ne s'étonnera plus que ces privilèges aient paru si inexplicables et si détestables aux Français, et qu'à sa vue, l'envie démocratique se soit enflammée dans leur cœur à ce point qu'elle y brûle encore. » Fin de citation. À l'heure qu'il est, alors, la question qui se pose à notre aristocratie contemporaine, celle justement de l'intelligence, est de savoir si la crise à laquelle on fait face a plus en commun avec celle de 1929 ou celle de 1789. Saura-t-on introduire suffisamment de réformes à la fois efficaces et équitables, ou cherchera-t-on à préserver son statut et ses privilèges au risque d'attiser davantage encore le ressentiment et l'envie. Autrement dit, saura-t-on réinventer la démocratie ou poussera-t-on par étourderie vers une nouvelle révolution ? C'est le choix profond qui nous attend et que pour le moment nous esquivons en mettant l'accent à la relance économique et la sourdine à nos aspirations à un monde plus équitable. Merci de votre attention.
Merci Arthur Gottheimer. Vous avez fait ce parallèle entre 1929 et 1789, enfin 2009, 1929, 1789. Un de vos collègues français qui est actuellement à Harvard a fait aussi une sorte de parallèle entre 1989 et la chute du système communiste et 2009, l'effondrement en quelque sorte du système néolibéral, et en se demandant si la chute de Lehman Brothers était comparable à la chute du mur de Berlin. Donc on peut effectivement poursuivre ce genre de métaphore. On reviendra tout à l'heure sur la question de l'égalité et de l'équité, ce qui est peut-être, la pauvreté, de la question fiscale avec Romain Huret, mais on va rester dans l'analyse historique et systémique de la démocratie américaine avec Sylvie Huret.
Sylvie Laurent.
Sylvie Laurent, pardon.
Nous ne sommes pas encore mariés.
Excusez-moi, je vous prie d'excuser cette confusion. Sylvie Laurent, pardon.
C'est pas grave. Bonjour. Je voudrais en effet rebondir d'emblée sur la fin de la présentation de Hart, qui est cette réflexion sur 1789. 1789, la grande révolution, la matrice des réflexions qui ont suivi en Amérique. Vous le savez, cette conférence s'appelle « De la démocratie en Amérique » et comment peut-on parler de la démocratie en Amérique sans se référer immédiatement à Tocqueville, qui semble un peu être l'horizon indépassable de la réflexion sur les États-Unis. Et je le dis avec d'autant moins d'ironie que Hart, qui est ici, est le grand spécialiste de la pensée de Tocqueville. Et pourtant, moi, aujourd'hui, je voudrais vous proposer une pensée, une réflexion alternative, une réflexion qui pourtant est née, elle aussi, de 1789 et qui apparaît comme un contre-pied absolu à la pensée de Tocqueville, puisque moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, ce serait de partager avec vous la vision qu'a eue un autre philosophe de l'histoire de ce que deviendrait éventuellement la démocratie américaine, c'est Karl Marx. Karl Marx revient un petit peu en odeur de sainteté ces mois-ci. La presse américaine redécouvre ses théories sur la surproduction et la façon dont le capitalisme américain finalement réaliserait les prophéties tragiques de Marx. Je ne voudrais pas étudier cet aspect-là, mais plutôt un aspect très méconnu, qui est la passion, véritablement, que Marx a eue, le jeune Marx a eue pour les États-Unis, et essayer de le lire en regard avec Tocqueville, car il s'agit de deux passions pour l'Amérique, l'une étant connue et l'autre sans doute un peu moins connue. Le jeune Marx, en effet, dès le début de sa réflexion intellectuelle dans les années 1840, était profondément animé par l'idée d'intégrer la démocratie dans sa vision de la réforme sociale de l'ensemble de la société. Sa première préoccupation était de savoir comment remplacer l'autocratie prussienne par une démocratie véritable. Cette idée de la démocratie, il va consacrer l'ensemble de sa vie à la perfectionner, il va beaucoup évoluer. Et moi, je m'intéresse particulièrement à ce Marx encore jeune, avant qu'il ne dévie vers l'anarcho-communisme qui le mènera d'une certaine façon à stipendier la démocratie comme régime bourgeois, régime fantoche qui, en réalité, continue d'opprimer le peuple. Pour revenir à une autre pensée, en réalité beaucoup plus dialectique et beaucoup plus fine de la démocratie qu'a eu Marx à ses débuts. Marx, influencé en cela par les chartistes anglais, était, à la différence des autres socialistes, à la fois qui l'ont précédé et de son temps, persuadé qu'on ne pouvait penser la progression vers le socialisme que dans son articulation avec la démocratie. La démocratie était une étape, et il a beaucoup théorisé ça dans ses travaux avec Engels, était une étape absolument nécessaire vers l'avènement d'une société idéale, de la fin de ce matérialisme historique qu'il a passé des années à théoriser. Et très rapidement, il fait comme un certain nombre de gens et comme Tocqueville, il tourne ses yeux vers la démocratie absolue de l'époque, c'est-à-dire les États-Unis. Et il se trouve que certains éléments de sa biographie personnelle l'y invitent, puisque en 1849, réfugié politique en Grande-Bretagne, il se voit proposer par un journal américain farouchement abolitionniste, le New York Daily Tribune, de devenir le correspondant à Londres de ce journal américain afin de chroniquer régulièrement la guerre civile américaine. Et donc, très rapidement, Marx porte ses yeux vers les États-Unis. Il faut bien dire qu'il est assez ébloui, mais à la différence de Tocqueville une génération plus tôt, il n'y va pas. Mais il a de très bonnes lectures de seconde main. Alors évidemment, la première question que l'on se pose, c'est: a-t-il lu Tocqueville ? Eh bien oui, on sait que Karl Marx a lu Tocqueville et que d'une certaine façon, ça l'a laissé un petit peu de marbre. Il a cité Tocqueville à un moment dans ses écrits, donc on sait qu'il l'a lu. Mais en réalité, la lecture qui l'a le plus influencé, c'est la lecture d'un autre voyageur qui était parti pour les États-Unis 2 ans avant, qui s'appelle Thomas Hamilton, qui est un Écossais, qui est parti faire lui aussi son grand voyage des États-Unis et qui en revient avec un portrait singulièrement différent de celui de Tocqueville. Tocqueville, vous le savez, voit l'inexorable mouvement de l'égalité s'emparer de la société américaine. Hamilton, 2 ans avant, voit une société américaine tout à fait différente. Il voit la société de la lutte des classes. Il voit lutte des classes. Pardonnez-moi, je suis anachronique. Il voit des tensions de classe se dessiner dans cette société jacksonienne qui se prétend être celle de l'égalité. Il voit les ferments de l'industrialisation qui poussent les ouvriers new-yorkais depuis le début des années 1830 à être en grève, à créer le premier parti de la classe ouvrière du monde développé. Il voit bien évidemment les questions raciales et le statut des Noirs qui pose un double problème. Un problème de réflexion sur l'égalité entre les hommes sur une base raciale, mais aussi il donne à Marx l'intuition que quelque chose se joue entre dialectique raciale et dialectique de classe. Et j'en parlerai un petit peu plus tard, ce que comprend Marx, qui n'est pas beaucoup plus que Tocqueville très sensible à la question des Noirs. Pourtant, les deux auraient dû lire 1830, l'abbé Grégoire, c'est un Français, est le premier à critiquer la version raciste des États-Unis initiée par Thomas Jefferson et qui est à l'origine d'une pensée sur la libéralisation du droit des Noirs qui sera assez populaire en France et dans le reste de l'Europe. Mais ce que comprend Marx grâce à sa lecture d'Hamilton, c'est qu'il se joue quelque chose aux États-Unis qui n'a rien à voir avec l'égalité des conditions. Il se joue quelque chose qui a à voir avec la naissance d'une classe populaire qui est de plus en plus mise à l'écart de l'ensemble de la société et que la question raciale est une contradiction dans les termes avec cette société libérale démocratique qui se prétend être un modèle. Marx a donc une lecture très critique des États-Unis et pourtant il parvient à articuler cette lecture critique à ses travaux et à sa passion pour les États-Unis. Il l'articule comment ? Bien évidemment, on sait que la principale critique que Karl Marx formule à l'égard du système démocratique, c'est dans sa distinction, je vais extrêmement vite, pardonnez-moi si je suis y compris un peu simpliste, entre les libertés réelles et les libertés formelles. En quelque sorte, entre le fait d'accorder le droit de vote à une partie de la population, fut-elle élargie au plus grand nombre, et les libertés réelles, c'est-à-dire le fait d'accorder par l'affranchissement social, la possibilité aux plus pauvres, aux plus démunis, d'être un membre à part entière. L'idée de Marx, c'est que la citoyenneté, c'est aussi la possibilité pour les plus pauvres, pour les ouvriers, pour les travailleurs, pour les femmes d'une certaine façon, et pour et les immigrés, pour le, dans le cas des États-Unis, d'avoir eux aussi leur mot à dire dans cette idée de participation à la vie d'ensemble. Et il sera à l'origine, avec d'autres, de cette intuition que la société civile, hein, il est en cela bon lecteur de Rousseau, la société civile joue une part très importante aux États-Unis. Il y a quelque chose. Et pourtant, il est très critique lorsqu'il tourne ses yeux vers le système politique américain, celui-là même que Tocqueville a observé avec admiration, en disant que le droit de propriété est quand même à la source de la citoyenneté américaine. Et que ce droit de propriété qui se traduit dans certains États par le fait que l'on demande quasiment un droit censitaire, hein, c'est-à-dire que l'on s'assure de la propriété de biens pour pouvoir voter, c'est une contradiction pour Marx qui se dit mais qu'est-ce que c'est que cette universalité démocratique qui a comme présupposé, comme acquis, que le droit de propriété fonde la citoyenneté. Donc il est extrêmement critique. Il est critique sur un autre point qui est la question de la religion. Évidemment, alors là, il a lu Tocqueville. Et d'une certaine façon, ça lui a fait peur, ce qu'il a lu chez Tocqueville. Il voit dans les États-Unis le pays de la religiosité. Et pourtant, d'une certaine façon, bien plus que Tocqueville, Marx est d'une finesse tout à fait surprenante au regard de l'historiographie contemporaine sur les subtilités de la religiosité américaine. Il y a aux États-Unis une tension entre ce que une chercheuse actuelle a appelé une tension entre l'esprit de laïcité américain, reprenant Tocqueville, et l'esprit de religiosité. Il y a une tension aux États-Unis entre un État extrêmement laïque, premier amendement de la Constitution américaine qui interdit l'institution d'une religion d'État, et eh bien quelque chose comme une religiosité viscérale de la population américaine. Et Marx comprend ça. Et Marx félicite dans ses écrits l'État américain, dont il dit que l'État se garde d'avoir une mission théologique. Et pourtant, il ne peut s'empêcher d'écrire que ce goût de la religion des Américains est un défaut. Il utilise le mot « defect » en anglais, est une faille dans cette Amérique. Pourquoi ? Parce que la religion sépare les individus les uns des autres. J'en profite à cet égard très rapidement pour souligner le fait qu'on a beaucoup caricaturé le point de vue de Marx sur la religion en prenant un petit peu en dehors de son contexte la phrase sur la religion qui serait l'opium des peuples. En réalité, il faut se replacer. Marx écrit en 1843 ses réflexions sur la question juive. C'est là qu'on y trouve ses réflexions dont je vous ai cité certains extraits les plus avancés sur la question de la démocratie et de la dialectique démocratique qu'il définira par la suite. Et lorsqu'il critique la religion, ça n'est pas tant la foi en tant que telle. Ce qu'il critique, c'est, dans le contexte du judaïsme européen, la prétention d'une religion instituée à empêcher la liberté de culte. Et donc, il est très sensible au fait qu'aux États-Unis, il y ait une liberté de culte et que, même si les Américains, et là, sont un peu trop tendance à croire en Dieu, il y a cette chose très, très étrange et très avant-gardiste qui est la laïcité de l'État américain. Donc, il est critique. Il voit avec une finesse tout à fait remarquable les divisions de classe qui se font jour aux États-Unis, et pourtant il ne peut s'empêcher d'avoir, et Hegel, son maître Hegel avant lui, avait eu cette intuition que quelque chose se joue dans le destin américain qui est peut-être un modèle pour le reste du monde. Et dans Le Capital, son grand œuvre, Le Capital, on trouve étonnamment, à peu près, quelle que soit l'édition, autour de la page 990, si vous voulez aller vérifier, il cite un courrier d'un jeune ouvrier français qui se rend à San Francisco et qui en rentre absolument ébloui. Parce que, il dit, moi j'étais ouvrier sans qualification, je suis arrivé à San Francisco et en l'espace de quelques mois, j'ai pu exercer 10 métiers. Je suis passé de mineur à charpentier, j'ai fait de la manutention et je n'ai eu aucun problème, moi, l'ouvrier, à passer d'une activité à une autre. Et Marx tire de cette expérience dans Le Capital quelque chose comme une théorie de ce qu'il appellera ensuite l'homme intégral. L'idée de Marx est de dire que peut-être la plus grande résistance à l'oppression du patronat, qui consiste à vouloir sectoriser l'ouvrier dans une tâche précise, c'est ce refus que permet la multi-activité du travailleur, la multi-employabilité, pardon, ce mot est très horrible, de l'ouvrier américain qui peut passer d'une fonction à une autre, et qui empêche par là sa captation, sa réduction à une fonction unique. Et il dit, l'homme intégral, je le trouve chez l'ouvrier américain. Il voit donc des potentialités révolutionnaires tout à fait surprenantes aux États-Unis, et certains de ces commentateurs récents disent même que dans certaines correspondances de Marx, on voit des propos pour le moins, disons, optimistes, sur le fait qu'à horizon de la fin du XIXe siècle, Marx voyait, avant même l'apparition d'une révolution en Allemagne, la survenue d'une révolution prolétarienne en Amérique. L'Amérique, terreau de la révolution des révolutions. Et d'une certaine façon, Marx a cru la voir de ses yeux. Et c'est mon deuxième point. Marx, et je dois bien vous dire que j'ignorais moi-même l'existence de ce texte, et pourtant je travaille sur la guerre civile américaine, Marx a écrit avec l'aide d'Engels, à partir des années 1850, un compte-rendu quasi quotidien de la guerre civile américaine. Et il en donne les analyses les plus fines et les plus remarquables qu'il m'était donné de lire à certains égards sur cette grande révolution américaine. Et tout d'abord parce qu'il comprend l'intrication absolument essentielle de la question sociale au sein de la guerre civile américaine, que l'on appelle ici la guerre de sécession. Là où Tocqueville avait pressenti une tension entre le Nord et le Sud, mais Tocqueville ne s'était pas tellement intéressé aux questions socio-économiques, ça l'ennuyait un peu. Il disait que la principale différence entre le Nord et le Sud, c'était une question de, il disait, les manners. Nous n'avons pas les mêmes usages au Nord et au Sud, et donc finalement, c'est plus une différence culturelle. Marx voit, lui, tout de suite, que derrière la question de l'esclavage, c'est deux systèmes économiques et sociaux qui s'opposent, et qu'il y a derrière l'esclavage des Noirs, en réalité, une utilisation par les forces de l'argent, les forces de pouvoir, du travail non rémunéré des esclaves, afin de maintenir le salaire des ouvriers du Nord à son niveau le plus bas. Et que les nordistes, pour lesquels il prend fait et cause un peu seul, je vous rappelle que à l'époque, beaucoup de pays d'Europe, à commencer par la Grande-Bretagne, sont tout à fait favorables au Sud. Et ce qui est intéressant, c'est pour quelles raisons est-ce que la Grande-Bretagne, comme un certain nombre de pays, souhaite secrètement que le Sud l'emporte sur le Nord. C'est que le Nord, c'est la démocratie. Or, depuis 1815, 1848, le printemps des peuples, la démocratie n'est plus tellement en odeur de sainteté en Europe. La démocratie, c'est un système un peu faible aux yeux de certains. C'est le chaos, c'est l'anarchie. Et l'on pense qu'un bon empire bien solide, c'est quand même mieux. Et chez les élites britanniques, on espère qu'à la faveur de la défaite du Nord républicain, soit illustrée un petit peu ces faiblesses intrinsèques de la République. Marx lui prend immédiatement fait et cause pour le Nord, d'une part parce qu'il comprend le rôle de la problématique sociale dans la guerre civile et le fait que les industries de Wall Street associées à la slavocratie du Sud maintiennent une structure socio-économique décadente qui permet des positions de pouvoir qui sont réactionnaires et qui sont antidémocratiques. C'est en cela qu'il est assez visionnaire. Et il rejoint en cela, je ne suis pas dans une lecture strictement marxiste de l'histoire de la révolution américaine. Les travaux les plus récents, je pense notamment aux travaux de David Rodiger sur la façon dont l'esclavage a réussi à mettre une pression très très forte et une pression de résistance vis-à-vis de l'éclosion d'une classe ouvrière au Nord, et ce sont les travaux les plus récents et les plus, ils sont pas complètement dénués d'idéologie, mais en tout cas ils ne sont certainement pas marxistes, qui prouvent la pertinence de cette lecture là mais là où Marx est encore plus pertinent, c'est lorsqu'il comprend le rôle que jouera très vite la déclaration d'émancipation des Noirs au milieu de la guerre. Et il est très fort puisqu'il précède Lincoln. On a ses chroniques, puisque l'ensemble de ses chroniques sont publiées dans la presse et traduites en allemand dès 1861. il pressent deux choses. Il pressent que libérer les Noirs au milieu de la guerre sera l'outil stratégique le plus utile à Lincoln pour gagner contre le Sud, parce que les Noirs sont au Sud et que c'est un réservoir de soldats absolument considérable, et qu'ils sont déjà au Sud, donc ils pourront l'emporter contre les vieux, contre les armées sudistes. Et il pressent par ailleurs que cette révolution américaine peut être une révolution universelle, à la condition que l'abolition de l'esclavage soit le maître mot de cette révolution. Il voit, je vais devoir m'arrêter, il voit en cela quelque chose de très fin dans la personne de Lincoln. Il est fasciné par Lincoln. Or, Lincoln voulait se battre pour une démocratie américaine. Lincoln, le constitutionnaliste, disait « Pour sauver la démocratie américaine, qui est la seule qui est véritablement exemplaire aujourd'hui, je dois abolir l'esclavage. » Non pas uniquement pour la sauvegarde de l'Union, mais parce que si je veux que l'Amérique reste un modèle démocratique, il faut que j'abolisse l'esclavage. Et Marx l'a compris. Et Marx, en 1864, écrit une lettre de félicitations à Lincoln, dans laquelle il lui dit « Les yeux de la classe ouvrière entière d'Europe sont tournés vers la bannière étoilée. » C'est un texte évidemment qu'on ne connaît pas de Karl Marx. Et je me permets de vous lire pour conclure la fin de ce texte parce qu'il est tout à fait stupéfiant. Les ouvriers d'Europe sont persuadés que si la guerre d'indépendance américaine a inauguré l'époque nouvelle de l'essor des classes bourgeoises, la guerre anti-esclavagiste américaine a inauguré l'époque nouvelle de l'essor des classes ouvrières. Elle considère comme l'annonce de l'ère nouvelle que le sort est désigné Abraham Lincoln, l'énergique et courageux fils de la classe travailleuse, pour conduire son pays dans la lutte égale pour l'affranchissement d'une race enchaînée et pour la reconstruction d'un monde social. Dans la philosophie de l'histoire, Hegel voyait dans Napoléon, le dernier homme, l'esprit à cheval. D'une certaine façon, on a le sentiment que Marx voit dans Lincoln, le dernier homme, l'esprit à cheval à son tour. Reste à savoir, si je dois conclure, mais on en discutera sans doute car j'ai été un peu longue, qui de Tocqueville ou de Marx avait raison. Hélas, les deux ont eu tort et les deux ont eu raison. Tocqueville a eu tort dans le fait qu'il a ignoré les questions sociales, qu'il a cru qu'on allait vers le nivellement par l'égalité, alors que jamais aujourd'hui les inégalités sociales n'ont aussi criantes aux États-Unis. Marx, lui, a eu tort. Jusqu'à présent, la révolution prolétarienne, le grand soir n'est pas advenu aux États-Unis. Peut-être qu'Obama nous ferait une révolution de velours, mais enfin, c'est encore à prouver. En revanche, ce qui est vrai, c'est que Marx et Tocqueville avaient raison sur le fait que ce qui tient cette société américaine, ce qui fait qu'elle n'est jamais devenue socialiste, c'est par l'institution de cette religion républicaine dont on a tant de mal à comprendre les ressorts en Europe, c'est-à-dire le fait qu'il y a une religion civile aux États-Unis, quelque chose qui est entre la communauté, la foi dans l'être suprême et le sentiment que être américain, c'est aussi croire dans une forme de prophétisme et de révolution à venir, quelle qu'elle soit. Merci.
Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé de vous avoir quasiment coupé la parole parce que c'était tout à fait intéressant et la manière dont vous avez insisté sur cette modernité de Marx dans l'analyse de la démocratie américaine, je crois, tout à fait passionnante. Maintenant, je donne la parole donc à Romain Huret, et j'espère qu'on aura le temps de discuter aussi avec vous, parce que je pense que vous avez beaucoup de questions et de remarques. Alors, voilà, je vous donne la parole, je sais qu'on est un peu en retard,
donc je vais
mais
essayer
je ne
de
veux
faire...
pas vous brimer mon
temps. Non, je vais essayer de faire très court. Bonjour à toutes et à tous. Je vais revenir à des choses beaucoup plus prosaïques pour ma présentation, puisque je vais parler d'impôts, donc on ne sera pas dans les hautes sphères de la pensée, on sera dans les choses beaucoup plus concrètes et pratiques. L'un des pères fondateurs américains disait qu'il y a deux choses dont on peut être sûr dans son existence, c'est la mort et les impôts. Donc je ne pense pas qu'on pourra réinventer la mort pendant ces quelques jours à Grenoble, mais on peut peut-être réfléchir à la manière de réinventer l'impôt et qu'est-ce que l'impôt nous dit des pratiques démocratiques et du sens qu'on peut donner à la démocratie. Alors juste un petit retour en arrière. Le 15 avril 2009, il y a trois semaines aux États-Unis, c'est le jour de la déclaration d'impôt, dernier jour de la déclaration d'impôt. Et ce qui était très frappant pour un spectateur français, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, c'est de voir la contestation de l'impôt dans les villes américaines. Arthur en a un peu parlé en disant qu'il y avait eu du côté des conservateurs une organisation très très bien orchestrée par les grandes chaînes de télévision, notamment la Fox et les grands groupes conservateurs, contre l'impôt, en disant qu'une fois de plus les démocrates sont de retour au pouvoir et donc on va encore dépenser, et les démocrates ne savent faire que cela. Donc les conservateurs disaient, il y en a assez, l'impôt est contraire à la tradition américaine et il faut véritablement que l'on cesse de demander sans cesse aux contribuables de payer pour les erreurs qui sont faites à Washington. À côté de cela, à côté de ces conservateurs qui manifestaient, il y avait d'autres gens qui utilisaient ce dernier jour de la déclaration d'impôt pour distribuer des papiers dans les villes américaines. Ces gens travaillent pour une organisation qui s'appelle la War Resisters League, qui est une organisation qui est contre la guerre et qui profite du dernier jour de paiement, enfin, du dernier jour de déclaration de l'impôt pour distribuer des tracts, une organisation très à gauche, hein, et pour estimer que l'impôt est illégitime aux États-Unis parce qu'il sert principalement à financer la guerre, et en l'occurrence, une guerre qu'ils trouvent totalement illégitime, qui est la guerre en Irak. Alors, ce qui est intéressant dans ces deux éléments, c'est de voir à quel point l'impôt, aujourd'hui, est considéré par beaucoup d'Américains, l'impôt fédéral, hein, je ne parlais que de l'impôt national, hein, puisqu'il y a tout un système local, on pourra en reparler dans la discussion. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point l'impôt a perdu aux États-Unis de sa légitimité. Et on a même vu, lors des auditions des différents ministres d'Obama, Obama qui avait fait un sans-faute jusqu'alors, depuis un an et demi, jamais la moindre erreur, jamais la moindre faille, et pour la première fois, il a fait des erreurs en janvier, parce qu'il s'est rendu compte que certains de ses choix pour les différents postes ministériels avaient un problème, c'est que ces hommes politiques avaient oublié, hommes et femmes politiques, avaient oublié de payer leurs impôts et avaient des arriérés fiscaux très importants. Et ça posait quand même problème lorsqu'on souhaite gérer une fonction publique, de ne pas payer ses impôts. Cela pose quelques soucis. Et je crois que cette réflexion sur la légitimité de l'impôt, à mon avis, est centrale, hein, dans une réflexion plus générale sur la réinvention de la démocratie et les nouvelles pratiques politiques dans une démocratie. Alors la question que je vais poser tout d'abord avec vous très brièvement, c'est comment expliquer que l'impôt a été délégitimé dans le cadre américain. La première chose que je veux évacuer tout de suite, c'est toute forme d'essentialisme de la pensée qui consisterait à dire, comme le font les conservateurs, que les Américains, par définition, par tradition, sont un peuple hostile à l'impôt et qu'il n'y a qu'à remonter à l'expérience fondatrice, la Révolution américaine, les Boston Tea Parties dont Arthur parlait tout à l'heure, pour dire que les Américains n'ont jamais payé d'impôt, les Américains ont toujours eu un problème avec l'imposition, et c'est même l'origine de la Révolution américaine, quelque chose qu'on peut entendre et qu'on a vu il n'y a pas plus tard que 3 semaines. Historiquement, c'est en grande partie faux, puisque dans les années 1940-1950, Roosevelt et les démocrates avaient inventé un impôt extrêmement élevé, parmi les plus élevés de toutes les démocraties occidentales, et les Américains acceptaient dans les années 40, 50, voire 60, de payer un impôt parmi les plus élevés pour financer le contrat social et faire en sorte que la démocratie américaine soit l'une des plus justes du monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 1960-1970 pour expliquer cette progressive délégitimation de l'impôt? La première chose, je crois, qui a été fondamentale, c'est que pour beaucoup d'Américains, l'État, la structure étatique, est apparue comme inefficace à utiliser l'argent des contribuables. Et ce thème de l'inefficacité de l'État dans la dépense publique est la principale raison qui explique la lente désaffection, mais durable, des Américains vis-à-vis de l'impôt fédéral. La deuxième raison, il ne faut pas l'oublier, dans les années 60-70, l'impôt servait déjà à financer la guerre. Et dans les années 60-70, on a vu beaucoup de contribuables américains qui ont refusé de payer l'impôt pour des raisons morales, des raisons éthiques, en estimant que l'impôt était non légitime parce qu'il servait à financer une guerre injuste. Ça renvoie à une situation actuelle. Et au final, ces deux éléments, un très interne sur la capacité de l'État et l'autre externe sur l'impôt qui sert à financer les guerres extérieures, a provoqué une réaction très forte de la part des classes moyennes, hein, qui sont souvent les plus appelées à payer l'impôt dans nos démocraties. Et ces classes moyennes ont refusé progressivement d'acquitter leur impôt, et en tout cas ont fait savoir aux différents gouvernants qu'à terme, ils espéraient véritablement des baisses d'impôts qui sont arrivées progressivement, qui ont été votées par les administrations aussi bien républicaine que démocrate, puisqu'on a eu un consensus dans les années 80-90 sur la nécessité de baisser l'impôt pour relancer la machine économique, mais également parce qu'on avait le sentiment que trop d'impôts finissaient par tuer l'initiative et finissaient par tuer toute vie politique dans le pays, et que le contrat social américain devait se passer du recours systématique à l'impôt. Alors qu'est-ce que peut faire Obama aujourd'hui, qu'est-ce que peut faire l'administration? Ça sera ma deuxième réflexion. Dans une entreprise de relégitimation de l'impôt, en me posant la question de savoir comment on peut, aujourd'hui dans une démocratie, redonner du sens aux dépenses publiques. Et un débat qui n'est pas seulement un débat américain, qui est aussi un débat français, européen, mondial. Comment est-ce qu'on peut réussir aujourd'hui, dans les années 2000-2010, à relégitimer l'impôt et à expliquer aux contribuables que l'impôt est absolument indispensable pour une démocratie saine et la plus juste possible. Alors pour l'instant, Obama a privilégié trois pistes de réflexion. La première piste, c'est une piste qui avait été mise en place par Roosevelt au tout début de son premier mandat, donc le parallélisme dont parlait Arthur est intéressant, qui consiste à réfléchir à des mesures symboliques. Mesures symboliques dont très souvent les dirigeants de gauche abusent, hein, à savoir taxons les plus hauts revenus ou taxons les pratiques fiscales les plus scandaleuses, comme les paradis fiscaux, etc., ce qu'il a fait, ce qu'il a annoncé en milieu de semaine, faisons en sorte de supprimer les abus fiscaux les plus scandaleux, les plus criants dans une démocratie, les très très hauts revenus et les paradis fiscaux. Première chose, première piste hein, qu'il a envisagée, donc une politique fiscale qui serait très très symbolique et qui viserait simplement à réduire les abus les plus criants du système, parce que le système, j'ai pas le temps d'en parler là, mais le système est fait de telle sorte aux États-Unis depuis une vingtaine d'années qu'un milliardaire déclarait récemment que sa secrétaire payait sans doute proportionnellement beaucoup plus d'impôts que lui. Donc on a une situation abracadabrantesque, comme disait le regretté Jacques Chirac, en ce qui concerne l'impôt aux États-Unis. Donc ça, c'est la première chose, la question du symbolique. La deuxième chose qu'a mis en place Obama, et à mon sens, qui est sans doute une piste beaucoup plus intéressante, c'est sortir de l'idée reçue selon laquelle les démocrates au pouvoir ne savent faire qu'une chose, imposer les contribuables et dépenser. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fameux tax and spend aux États-Unis. On a cette vision des démocrates qui savent simplement, un peu comme les socialistes en France, c'est-à-dire augmenter les impôts et dépenser. Mais derrière tout cela, il y a l'idée que les dépenses sont illégitimes parce qu'elles servent principalement à aider tel ou tel sénateur démocrate, tel ou tel élu démocrate dans tel ou tel État américain. L'un des grands spécialistes du tax and spend dans ces dernières années, avait été Bill Clinton. Bill Clinton, qui avait su parfaitement utiliser toute une série de niches fiscales aux États-Unis et de fonctionnement de l'administration américaine pour aider régulièrement les élus démocrates à être élus, réélus. Donc une machine fiscale hein, qui serait vue de la manière la plus déplorable possible et qui servirait principalement à faire réélire ses amis de son propre parti. Obama estime que c'est dangereux, enfin, on est tout à fait conscient, et son administration également, et estime que l'une des pistes qui serait beaucoup plus intéressante, c'est de réfléchir à l'investissement de l'impôt et de faire en sorte que, plutôt que d'aider telle ou telle industrie, d'aider tel ou tel élu démocrate, il faut vraiment réfléchir dans le long terme. Et si on investit dans l'industrie automobile pour aider tel ou tel élu démocrate de Détroit, il faut demander des contreparties fiscales, demander des contreparties économiques et faire en sorte que cet investissement soit rentable dans les années à venir. Et par exemple, il y a toute une réflexion qui est très intéressante en ce moment sur l'industrie automobile américaine, puisqu'en échange des aides fiscales du gouvernement fédéral, l'administration Obama souhaite que l'industrie automobile mette en place une vraie réflexion en termes écologiques et en termes de développement durable de l'industrie automobile. Et donc, ça ne sera pas simplement des cadeaux fiscaux comme en France, on a pendant très longtemps fait l'industrie automobile, mais vraiment que l'argent des contribuables soit utilisé pour un développement durable d'une industrie et pas seulement pour aider tel ou tel élu. Dernier point de ces pistes mises en place par Obama qui sont intéressantes en termes de vie démocratique. Il a demandé à l'ensemble de ses ministres et à son administration de pratiquer une politique de transparence budgétaire, c'est-à-dire d'expliquer systématiquement à quoi le budget et l'impôt a servi. Et on a vu, par exemple, il y a 3 semaines, le ministère des Transports, qui a reçu beaucoup d'argent dans le cadre du plan de relance américain, justifié auprès des contribuables, par le biais de conférences publiques ou par le biais d'Internet, qui peut être utilisé dans cette optique-là, les dépenses qui ont été faites. Et le ministre des Transports a mis un point d'honneur à montrer qu'en utilisant un système d'appel d'offres, il a dépensé moins que l'argent qui a été alloué par le Congrès dans le cadre du budget de 2009. Et donc il y a une véritable politique de transparence de l'impôt, de transparence de la dépense, pour essayer d'expliquer systématiquement comment est dépensé l'argent des contribuables, et notamment, je le répète, en utilisant Internet, hein, qui peut servir pour les contribuables et les citoyens, hein, de voir véritablement, en temps presque réel, hein, comment l'argent des contribuables est voté au Congrès et ensuite dépensé par l'administration démocrate. Et là, pour Obama, je crois qu'il y a un enjeu qui bien évidemment est symbolique, hein, mais qui peut servir, je crois, à terme à refonder sans doute la démocratie américaine ou toute démocratie, qui est d'essayer d'accélérer la transparence et essayer de vraiment de montrer aux Américains comment l'impôt est utilisé pour le bien public et pour la collectivité américaine. Et je crois que c'est sans doute probablement pour Obama l'enjeu le plus considérable, hein, qui existe pour son administration, relégitimer l'impôt pour pouvoir sans doute utiliser à terme cette nouvelle légitimité pour, le cas échéant, augmenter les impôts, parce qu'il fera... Il y a de fortes chances que, de toute façon, vu l'état des finances aux États-Unis, les augmentations d'impôts soient inéluctables. Et on sait que dans son propre camp, notamment le camp démocrate, il y a beaucoup d'élus qui sont contre toute augmentation d'impôts. Mais je crois qu'Obama, de toute façon, devra s'y résoudre. Mais s'il veut s'y résoudre et faire en sorte que la démocratie américaine en profite, l'une des solutions qui, à mon sens, est la plus importante, c'est de relégitimer l'impôt, parce que l'impôt sert avant tout à la collectivité. Et c'est de ces pistes, hein, que j'ai évoquées, que l'administration Obama pourra vraiment redonner du sens à l'impôt et par là même redonner du sens à la démocratie américaine. J'espère ne pas avoir été trop long et qu'on puisse ouvrir la discussion. Merci beaucoup pour votre attention.
Alors, merci beaucoup. Il nous reste un peu plus d'une vingtaine de minutes. On va essayer de les utiliser au maximum. Donc, je vous prie de poser des questions aussi brèves que possible pour que le plus grand nombre d'entre vous puisse intervenir. Qui veut commencer? Personne. Ah ben c'est étonnant. Monsieur, au deuxième rang, là. Attendez, vous allez avoir un micro.
Oui, ben, je pose une question de naïf, hein. Enfin, il est très étonnant de constater, de notre point de vue, comment les États-Unis peuvent apparaître un Français moyen, que je suis, comme passant d'un grand système, je dirais, qu'on pourrait... un système démocratique et économique inqualifiable, quelque part, enfin inqualifiable au sens propre du terme, c'est-à-dire dont je n'arrive pas à décrire quels sont les mécanismes, je dirais, à la limite... une espèce de comparaison qu'on a presque envie de faire avec l'ancien système soviétique, une espèce de grand complexe militaro-industriel capable de déclencher une guerre en Irak, par exemple, on l'a dit à plusieurs reprises, incompréhensible pour nous, Européens, une espèce de grand projet démocratique qui nous apparaît comme d'un optimisme remarquable avec l'élection d'Obama, une espèce de sursaut de l'ensemble du peuple américain. C'est vrai que ce que je suis venu chercher dans cet atelier, finalement, c'est quelques explications, parce que c'est totalement surprenant. C'est presque incompréhensible.
Monsieur Goldham, peut-être vous avez fait allusion à ces fluctuations dans la vie politique américaine. Vous pouvez...
Oui, mais c'est un peu difficile à répondre à une question d'une telle... ampleur. À mon avis, vous caricaturez un peu quand vous comparez les États-Unis d'avant à l'Union soviétique et à une économie dirigée. Il y avait un vrai soutien populaire à l'économie néolibérale. Je crois que c'est à ça que vous faites référence, en fin de compte. Il y avait un soutien populaire pour ça parce que ça marchait bien. Le taux de chômage était très réduit, les impôts étaient réduits par rapport au passé dont a parlé Romain Huré, et on était très contents, surtout dans les classes moyennes, qui sont les classes qui votent aux États-Unis. Le taux de participation des pauvres est assez réduit. Pendant une vingtaine d'années, on était assez content avec l'économie qu'on faisait. Ça faisait partie du projet démocratique. Donc, on ne peut pas faire la distinction que vous faites entre le grand projet démocratique et une économie puissante et le pouvoir mondial qui va avec. Je ne crois pas que ce sont deux choses différentes.
Est-ce que je peux vous poser une question qui me vient à l'esprit avec votre réponse? Vous avez parlé de la faible participation des pauvres en général au scrutin, et notamment au scrutin présidentiel. C'était le cas aussi des Noirs. D'ailleurs, les deux peuvent se recouvrir. Les deux critères peuvent se recouvrir. Est-ce que ça a changé avec la dernière élection présidentielle?
Oui, la participation des Noirs était plus élevée pour des raisons évidentes. Et les Noirs, quand ils votent dans chaque élection, même si le candidat n'est pas noir, votent à peu près 90% pour le Parti démocrate. Ça n'a pas changé. Dans cette élection, c'était un peu plus élevé par rapport au score de Kerry, mais quand même, le score parmi les Noirs est le même, mais la participation était un peu accrue.
D'autres questions? Oui.
Romain Huret a parlé contre le mauvais usage des impôts, de l'investissement de l'impôt. Or, l'investissement de l'impôt par l'État suppose forcément la définition d'une politique économique. Est-ce qu'il y a déjà des débats à ce sujet?
Autrement dit, est-ce qu'il y a une politique économique de l'État
fédéral,
aux États-Unis,
oui.
De l'État fédéral?
Oui.
Pour répondre, la première chose que je dirais, c'est qu'il est plus facile d'en parler là que d'être à la place d'Obama, qui a beaucoup de choses à prendre en compte. Bien évidemment qu'il y a des débats au sein de l'administration sur les orientations futures, mais de manière très, pour l'instant, très, très pragmatique et très lucide, l'administration Obama cherche d'abord à résoudre les plans d'urgence. Il faut bien voir que c'est une administration qui travaille pratiquement au jour le jour, hein, avec, on lisait récemment, l'avenir des banques, par exemple, qui vient d'être plus ou moins stabilisé, mais on n'est pas à l'abri dans 15 jours d'une nouvelle effondrement du système bancaire. Donc tous les plans au sein de l'administration, il y a plusieurs plans de simulation de projets économiques après la résorption de la crise immédiate, mais on est dans des conjonctures qui vont dépendre de l'évolution immédiate. Donc je ne veux pas du tout jeter la pierre à Obama en l'accusant de quoi que ce soit, mais il a à régler... il y a deux problèmes principaux qui sont, un, l'effondrement de l'économie à l'intérieur, et deux, la guerre en Irak, ce qui est quand même beaucoup pour un seul homme. Et bien évidemment, l'un et l'autre vont ensemble. Il est évident que le coût de la guerre actuelle est tel que ça cause de graves problèmes à l'économie américaine. Et sur les deux projets, il n'a aucune visibilité à une semaine, 15 jours, 3 semaines. Enfin, personne ne peut dire aujourd'hui, il y a 15 jours, le Dominique Strauss-Kahn avait des prévisions extrêmement sombres. Hier, on a eu des prévisions plus optimistes. Donc, personne ne peut du tout dire ce qui va se passer. Je le dis souvent, mais Obama, c'est Roosevelt plus une guerre mondiale en même temps. Donc, il a quand même à gérer deux problèmes extrêmement graves les deux en même temps, et donc il a assez peu de marge de manœuvre, et vraiment la politique, ce qui a été décidé par l'administration, c'est de gérer au quotidien l'économie. Donc il y a pas de c'est pas un idéologue, Obama, hein. C'est pas quelqu'un qui est un grand penseur, un grand théoricien qui est arrivé avec des idées très claires de ce que devait être l'État, ce que devait être la politique économique, la politique étrangère. C'est quelqu'un d'assez on dit souvent que les Américains sont pragmatiques, mais dans son cas, je pense que ça fonctionne bien. Et qui a bien dit, on utilise ce qui marche, et ce qui ne marche pas, on laisse tomber. Donc, ce n'est pas du tout un grand idéologue avec des grandes pensées.
Oui, vous pourriez aussi ajouter à la guerre en Afghanistan, à la guerre en Irak, qui coûte aussi cher. Mais peut-être la question plus généralement est de savoir si, alors que pour les néolibéraux, appelons-les comme ça, européens, le terme de politique industrielle... et même de politique économique, c'est un peu un terme tabou. Est-ce que chez les démocrates américains, dans la période actuelle, ce thème d'une politique industrielle, d'une politique économique pensée et gérée par l'État, et ou non va rester ou non un tabou?
C'est pas un tabou, mais je crois qu'il faut, pour comprendre vraiment les difficultés d'Obama, il faut revenir à la politique dans ce cas-là le plus concret et souvent de moins intéressant, c'est-à-dire le vote du budget et les négociations auxquelles Obama doit faire face en permanence. Les gens qui lui ont posé le plus de problèmes jusqu'alors, ce ne sont pas les républicains ou les conservateurs, ce sont les démocrates de son propre camp et qui ont trouvé par exemple que son plan de relance budgétaire qui était intéressant parce qu'il y avait des pistes écologiques très intéressantes, qu'il y avait des pistes éducatives extrêmement intéressantes avec un soutien à l'éducation, à l'enseignement supérieur. Mais beaucoup d'élus démocrates lui ont dit gentiment que c'était bien beau ces grands projets, mais ça ne vous fait pas réélire l'an prochain, dans 2 ans. Donc on préférait plutôt aider telle entreprise, telle industrie automobile qui a des soucis. Là, vous gagnez des voix dans les 2 ans. Mettre en place un système de bourse pour l'enseignement supérieur ou faire un programme de réflexion sur la voiture du futur, le développement durable de l'industrie automobile, c'est très bien. Mais en termes de voix, si c'est pour attendre 20 ans pour qu'il y ait des effets positifs pour la population, c'est autre chose. Donc il est confronté à cela, c'est-à-dire à réussir à penser l'avenir, penser le futur, tout en devant préserver des acquis politiques, politiciens, immédiats. Et ce n'est vraiment pas une tâche facile.
Il ne faut pas oublier que la prochaine échéance électorale, c'est déjà 2010 pour Obama avec les élections de mi-terme. D'autres questions, mademoiselle, ici ?
Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au système électoral aux États-Unis. Personnellement, moi, je ne le trouve pas démocratique. Mais est-ce que c'est réaliste d'envisager un changement sur ce système ?
Un changement du système électoral, pourquoi ? On n'en parle pas pour le moment. Il y a beaucoup de problèmes immédiats. Est-ce que vous voyez une raison pour changer le système électoral ?
En fait, le peuple américain n'élit directement son président. C'est via des représentants.
Vous parlez de Electoral College.
Yes.
Oui, dans certains cas, de mémoire récente, on a vu que ça peut poser problème, mais on ne parle de ça qu'à ces moments de crise et puis ça disparaît complètement du discours parce que c'est trop compliqué. Pour changer le système, il faudrait faire un amendement à la Constitution et c'est très difficile à faire. Et il n'y a pas de poids politique derrière un tel projet.
De savoir ce qui est plus ou moins démocratique. Est-ce que c'est la permanence d'un système, comme aux États-Unis, par exemple, avec les défauts qu'on connaît auxquels vous faisiez allusion, ou bien des changements quasi constants de la loi électorale en fonction des intérêts à court terme de tel ou tel parti. Donc je pense que à la fois la permanence et le changement quasi quotidien, les deux ont des inconvénients. En termes de démocratie. Une autre question, monsieur.
Merci tout d'abord pour le brio de vos interventions. Je voudrais avoir votre avis sur 2 choses. L'absence de système de santé pour tous qui est criant et la médiocrité de l'éducation dont on ne parle pas assez souvent. Je trouve que c'est antidémocratique. J'arrive pas à relier les institutions démocratiques, tout ce dont on a parlé depuis une heure, et ces failles ahurissantes de la société américaine qui est extrêmement prospère par ailleurs.
Vous voulez donner...
Je suis tout à fait de votre avis sur les 2 failles criantes que sont la question de la santé et la question de l'éducation. Les Américains en sont d'ailleurs tout à fait conscients. Et Barack Obama a plusieurs fers au feu, comme on l'a dit, mais dans son programme, il y avait bien évidemment la question de l'assurance maladie universelle. Et il est y compris poussé par certains qui voudraient qu'il aille encore plus loin. Mais enfin, c'est quand même un point très important pour lequel il a été élu. Et sur la question de l'éducation, il y a aussi toute une ambition de revalorisation, notamment de l'enseignement primaire, qui, il faut bien le dire, avait été entamé par un programme qui s'appelait No Child Left Behind par l'administration Bush, qu'il va poursuivre, et il a un certain nombre de projets, y compris sur l'enseignement des élèves un petit peu plus grands. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous lorsque vous parlez de la médiocrité du système éducatif américain. Le problème, c'est qu'il y a de tout aux États-Unis. Et en particulier, il y a une très très grande divergence entre la qualité de l'enseignement supérieur et la relative médiocrité de l'enseignement secondaire. Le nouveau défi aujourd'hui, une fois encore, c'est la question des inégalités sociales, qui fait qu'encore il y a quelques années, on pouvait, grâce à l'accession à l'université, être assuré d'accéder à un milieu social supérieur. On se rend compte que l'explosion des inégalités sociales rend strictement impossible le fait de payer les 30 000 ou 40 000 dollars que demande l'université, ou même l'accès à des colleges de seconde catégorie qui deviennent d'autant plus sélectifs que le haut du panier devient d'autant plus sélectif. Donc la question de l'accession à l'enseignement supérieur est un problème considérable, parce que ça entretient les inégalités sociales, c'est-à-dire que ça les reproduit. La France a un petit peu ce débat-là, bien qu'on ait un excellent il a encore des difficultés, mais un excellent système secondaire en comparaison. Et je ne crois pas que ce soit forcément en contradiction. C'est-à-dire que les failles de la démocratie américaine ne sont pas en contradiction avec son ambition de s'améliorer. C'est ce qui m'a plu dans le regard de Marx par rapport à celui de Tocqueville. Alors Marx, évidemment, pensait que l'avènement ultime, ce serait la dictature du prolétariat. La démocratie ultime, ce serait ça. Ce n'est pas ce que je souhaite pour l'Amérique, bien sûr, mais j'aime cette idée que la démocratie est un travail constant, c'est work in progress. On ne cesse jamais de travailler chaque jour à la démocratie, là où Tocqueville voyait dans les États-Unis la démocratie réalisée. C'est absolu, on ne bouge plus, tout est en l'état. Ce qu'a montré l'élection d'Obama, c'est qu'avec la santé, avec l'éducation, avec la crise économique, avec la guerre, il y a toujours des petites révolutions locales à réaliser. S'il parvient à faire un système de santé à peu près consistant pour l'ensemble des Américains, même s'il ne veut pas la rendre obligatoire, s'il arrive à faire vraiment quelque chose en la matière, ce sera à l'échelle de l'Amérique une petite révolution déjà.
Oui, bien sûr.
Juste pour ajouter un petit mot à ce que a dit Sylvie, il ne faut jamais oublier que le système éducatif américain est local. Et c'est lié aux impôts locaux. C'est l'impôt sur la résidence qui paye pour l'éducation au niveau local. Il y a des aides fédérales, mais pour l'essentiel, le système est à une base locale. Et donc, il y a de fortes inégalités dans ce système. Dans les villes assez riches, on paye pour l'éducation des enfants. Dans les villes pauvres, les écoles sont très mauvaises pour cette raison. Et donc, pour changer ce système, il faudrait s'attaquer à la base du système fédéral, et c'est très, très difficile.
Peut-être sur le système de santé, vous vouliez dire
un mot ? C'est peut-être juste une réflexion à partir de remarques qui a été faite tout à l'heure aussi sur le caractère étonnant du système américain. On raisonne, j'ai un peu l'impression que là, qu'on raisonne de manière très française sur le système américain, dans un rapport permanent du citoyen à l'État. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a une structure qui est quand même très très importante, qui sont les organisations charitables, qui sont les fondations, qui jouent un rôle très très important dans le domaine de l'éducation, par exemple, et de bien comprendre que les Américains donnent beaucoup beaucoup d'argent. Enfin, il ne faudrait pas avoir une image un petit peu égoïste comme la vision qu'on a parfois en France. Les Américains passent leur temps à faire des chèques, à donner de l'argent, mais ils ne veulent du mal à le donner à l'État, en fait. C'est-à-dire que le principe de l'impôt n'est pas légitime, mais en revanche, si vous avez des amis américains, ils passent leur temps à faire des chèques pour les églises, les associations, les fondations, etc. Et donc tout cet argent qui est donné à l'extérieur des structures traditionnelles françaises, hein, sert à financer beaucoup d'étudiants pauvres vont à l'université ou dans des community colleges avec de l'argent de fondations. Donc je dirais qu'il y a une troisième structure à avoir en tête si on veut bien. C'est pas un rapport systématique le citoyen face à l'État. Il y a une structure qui est très très puissante aux États-Unis. Les fondations, par exemple, versent chaque année des millions et des millions d'euros pour financer des étudiants pauvres, pour aider dans des communautés, etc. Enfin, il y a des masses colossales qui sont financées par l'argent individuel, parce qu'il y a ce sentiment que la fondation locale ou l'église locale sera plus compétente, plus efficace pour aider les pauvres et aider les étudiants méritants que l'État. Donc je crois que c'était juste peut-être pour rectifier une vision un peu française de la démocratie américaine.
Merci de cette précision. Encore une question. Attendez, on en a une question en haut, puis après, ce sera votre tour. Oui.
Oui, bonjour. Donc, vous étiez partiellement en train de répondre à ma question, mais donc je reviens peut-être sur deux caractéristiques de la démocratie en Amérique, qui sont d'abord la territorialité, avec les inégalités qu'on connaît, qui se traduisent notamment par les comportements électoraux, et selon la manière dont on le considère, que ce soit un melting pot ou un salad bowl, le mix culturel qu'il y a actuellement aux États-Unis. Finalement, ma question porte sur les relais d'une idée démocratique à l'échelle de ce pays et comment la démocratisation finalement peut s'homogénéiser, à partir de quel relais, et justement derrière il y a aussi la question donc du rôle de l'État et de la société civile. Et c'est vrai que, comme vous l'avez précisé, Sylvie Laurent, dans votre exposé, le rôle de la société civile, on le sait, est important. Après, dans quelle mesure peut-il permettre d'homogénéiser l'idée démocratique aux États-Unis?
Je peux vous donner un exemple très, très, très trivial, d'une certaine façon. C'est le rôle qu'a joué Internet pour l'élection d'Obama et la façon dont il a réussi à couvrir pendant la campagne l'ensemble du pays de réseaux d'étudiants, de réseaux de militants qui, grâce à Internet, qui ont utilisé Internet comme un moyen de promouvoir la démocratie dans son sens le plus simple, c'est-à-dire aller voter. Donc aller voter et démarcher les gens au téléphone, leur envoyer des mails, s'assurer qu'il y ait véritablement un militantisme virtuel. Et ça a été une des grandes choses qui ont surpris les gens au moment de cette campagne. Il n'a pas inventé l'utilisation de l'Internet, mais c'est la première fois sans doute que la mobilisation démocratique a pris cette forme-là. Pour le reste, le bon vieil activisme de papa continue à fonctionner. On fait des manifestations, on a des leaders communautaires, des leaders civiques, des leaders syndicaux, et l'idée démocratique, comme le voyait Tocqueville, elle est beaucoup à l'échelle de la communauté. Ou comme le disait Romain, chacun paye pour sa fondation, sa communauté, son église. Et ce sont des relais très très importants. Encore aujourd'hui, l'église, on l'a vu avec l'affaire du pasteur de Barack Obama pendant la campagne, qui a fait un petit peu polémique. Ce sont des relais démocratiques, c'est-à-dire que c'est une parole publique, c'est une parole intermédiaire qui appelle les citoyens à se réunir, à discuter et éventuellement à voter, ou en tout cas à se positionner dans les grands débats du pays.
En complément, on a assisté l'an dernier lors de l'élection à une formidable mobilisation militante dans les rangs démocrates et dans les rangs de la gauche américaine, qui avait eu tendance à s'effriter au cours des 20-30 dernières années, faute de dynamisme, d'envie des militants de gauche d'aller soutenir un candidat au sens le plus pratique du terme, c'est-à-dire faire du porte-à-porte, aller de maison en maison pour dire aux gens « votez pour mon candidat », etc.
Et la force de l'effet bouche,
et Obama a parfaitement analysé les victoires conservatrices des années précédentes. Ils ont gagné parce qu'ils étaient sur le terrain, parce qu'ils sont allés chercher les électeurs de maison en maison, de coup de fil en coup de fil. Et Obama a quadrillé le terrain de manière considérable en faisant quelque chose que les démocrates ne faisaient plus, c'est-à-dire aller dans les comtés qui leur sont défavorables. Et pendant très longtemps, pour des raisons financières, parce que ça coûte très cher, et des raisons de militants, les démocrates allaient seulement dans les comtés qui leur étaient favorables. On soutenait les comtés qui étaient tangents, 50-50. Mais on estimait que certains États étaient acquis d'avance au Parti républicain, donc il ne fallait pas aller les chercher. Pour vous donner un exemple très concret dont j'ai pu discuter avec des militants de l'équipe Obama, la Virginie. Le sud de la Virginie était un bastion démocrate de pauvres blancs, white trash, comme on les appelle aux États-Unis, qui vivent dans des mobil-homes, etc. L'équipe Obama, sachant que l'élection allait se jouer là, a mis l'accent sur ces comtés, a envoyé des jeunes militants qui ont entre 18 et 25 ans, étudiants pour la plupart, à aller militer dans ces comtés, donc de mobil-home en mobil-home, aller voir les gens, etc. Et on leur avait donné comme conseil principal de ne pas parler des 3G avec ces militants, les 3G étant guns, les flingues, gays, les homosexuels, et God, Dieu, la religion. Donc il faut éviter ces trois sujets, et il faut taper sur deux choses, ne pas surtout pas en parler, il faut parler de la crise économique, problème économique et l'assurance sociale. Vous tapez, vous entrez et vous tapez. Et un ami m'a dit que très souvent en partant, les gens lui disaient « Vous inquiétez pas, on votera pour the nigger, on votera pour le nègre. »
Voilà. C'est comme ça que l'on dépasse les clivages raciaux. Dernière question, monsieur.
C'était pour reprendre à propos des difficultés qu'a Obama pour mettre en place certaines réformes très importantes comme la sécurité sociale, etc. Est-ce que ce n'est pas quand même le défaut du système des États-Unis? Parce qu'en France, avec un bon système central, bien jacobin, où le président dit à partir de maintenant, on fait ça, on fait ci, ce n'est pas finalement beaucoup mieux. Comment est-ce qu'on aurait pu installer la sécurité sociale en 1946 ou en 1945 si le général de Gaulle n'avait pas dit voilà, maintenant ce sera comme ça? Je crois que ce n'est pas possible aux États-Unis. C'est un système où le pouvoir est trop émietté, puisqu'il y a des États qui sont totalement autonomes, finalement, d'après ce que j'ai compris. Je ne connais pas très bien les États-Unis, mais il y a des États qui se permettent de ne pas appliquer les directives fédérales ou qui pourront même s'opposer à un système d'assurance obligatoire, etc. Je voudrais avoir votre avis, M. Huré ou M. Goldhammer.
Oui, dans la science politique américaine, on parle de veto points. C'est un terme plus scientifique pour les fameux checks and balances qu'a tant apprécié Tocqueville. Quand il y a un président comme Bush, on est content, si on est de gauche, qu'il y a des checks and balances. Maintenant qu'on veut faire quelque chose avec un président qui est du bon côté, c'est un embarras. Ça nous gêne, c'est sûr. Et c'est très difficile pour Obama, même avec une majorité de 60 ou presque dans le Sénat, où la technique du filibuster, où on part sans arrêt pour arrêter une législation, existe toujours. Il y a des sénateurs démocrates qui ne sont pas fiables. Donc, ce n'est pas sûr qu'il va pouvoir passer outre. Donc, vous avez raison, parfaitement. Ça va être très difficile de faire ces réformes. Mais c'est comme ça. C'est un système qui a tant bien que mal fonctionné pendant 200 ans et on ne va pas le changer du jour au lendemain.
Merci beaucoup. Je pense que c'est une conclusion tout à fait... Je ne sais pas s'il est optimiste, mais en tout cas, c'est une très bonne conclusion.